Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, donc nous voilà à nouveau pour une conférence. Habituellement, en raison de certaines activités, je clôturerai le cycle d'histoire. Cette année, j'ouvre le feu. C'est une lourde responsabilité. Donc, j'ai essayé d'être à la hauteur de la tâche. Je n'aborde pas le problème du baptême de la France 496 de Clovis, particulièrement en tant que spécialiste de Clovis. Ça serait une escroquerie de le cacher, intellectuel. En tant que missiologue, spécialiste des missions, je veux plutôt vous proposer une lecture personnelle de Clovis, une lecture fondée sur les documents, s'entend, une lecture que je n'ai pas été seul à faire, mais que j'essaye de porter le plus loin possible, parce qu'il m'a semblé important de voir Clovis sous le véritable éclairage qui est celui du christianisme, du catholicisme et de ce qu'apporte la conversion de Clovis. Passer des heures à disserter sur des dates, sur Grégoire de Tours, sur barbare, pas barbare, cruel, pas cruel, grand, petit, chevelu, gros, mince, tout ce qu'on veut, on trouve ça dans Historia, ça n'a pas grand intérêt. On peut passer toute une vie à discutailler sur Clovis lui-même, sur ce qu'on possède, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Querelle d'érudits, souvent d'érudits d'historiens qui veulent avoir raison, est-ce que c'est en telle date et autres? Non. Donc je vous propose plutôt de replacer Clovis dans son contexte, contexte de l'époque, de voir l'événement lui-même et ce que ça entraîne. Ça sera donc un plan comme suit. Avant 496, la christianisation. 493, la conversion. Après 496, une révolution. J'aborde donc avant 496, christianisation. Nous savons que la christianisation de la Gaule se perd dans les origines même du christianisme, puisque cette évangélisation commence au 1er siècle et elle est l'œuvre des moines, des prêtres, des évêques, des diacres, qui se répandent très rapidement dans l'ensemble de l'Europe. C'est vers 63 que nous voyons les premiers évangélistes venus d'Orient, parlant le grec et commençant à prêcher à Marseille. Le christianisme se répand très rapidement. À Lyon, d'ailleurs, le père Jourgeon dit très bien dans ses cours aux facultés catholiques que le christianisme est attrapé par contagion. C'est une contagion, le christianisme. Et c'est vrai, c'est une contagion. La sainteté des prédicateurs et en même temps la loi d'amour qu'ils prêchent bouleverse profondément la société romaine qui est fondée sur la férocité, une sorte de cruauté. Et on le voit très bien lors des grandes vagues de martyrisation, n'est-ce pas, par les Romains. Les populations, donc, progressivement, vont se détacher de Rome, attirées par le dieu des béatitudes, plutôt que par les dieux sanguinaires romains et les jeux cruels du cirque. Donc, au fur et à mesure, il n'est pas question ici de parler du déclin de l'Empire, étant disserté pendant des heures. Mais au fur et à mesure que l'Empire décline, l'Église apparaît, avec ses évêques, comme la seule puissance protectrice des populations et capable de récupérer, voire transcender, la romanité. Et ça, c'est important. Alors, ce christianisme se diffuse dans toute la Gaule, dans toute l'Europe. Très vite, on voit surgir, ça et là, des élites nombreuses. Saint-Brieuc évangélise en armorique entre 409 et 502. Saint-Delphin fait progresser la foi en Aquitaine vers 401, enfin avant 401 puisqu'il meurt en 401. Saint-Éleuthère est le premier évêque de Tournai en 486 et meurt tué par les Ariens en 531. Saint-Hilaire combat l'arianisme au IVe siècle. Saint Martin évangélise les campagnes et fonde les paroisses au IVe siècle, ces paroisses dans les campagnes qui permettent d'aller d'amener à la christianisation ces populations de paysans en fondant des petites paroisses rurales. Et donc c'est une armée de moines, d'évêques, qui sillonnent les campagnes. Et comme le dit Godefroy de Kurt, n'est-ce pas, ils ont été la gloire de l'Église du IVe siècle. Et d'autres noms célèbres, Saint Nizier, Saint Rigobert, Saint Rémy, au même moment bien sûr, Saint Césaire d'Arles, Saint Didier de Cahors, Saint Léger d'Autun, construisent les murailles de leur ville. Au moment où Rome s'effondre, où il n'y a plus de pouvoir impérial véritablement capable de maintenir l'unité romaine face aux invasions barbares qui déferlent au IVe, Ve siècle, eh bien, les évêques sont les seuls capables de défendre les populations, d'exercer un pouvoir politique au vrai sens du terme, police, n'est-ce pas, s'occuper de la cité. Contrairement d'ailleurs à une affirmation de quelqu'un que tout le monde connaît, Gustave Thibon, qui, au mépris de la réalité de l'histoire à ce moment-là, affirmait que finalement c'était ni les évêques ni les cités qui avaient sauvé la romanité. C'est faux. L'histoire aujourd'hui, même l'histoire universitaire, le confirme largement, et c'est une chose que personne ne peut mettre en doute. Personne ne peut mettre en doute. Hein. Il est clair que les évêques sont là, ils s'occupent des villes, ils s'occupent des populations, les seuls capables d'apporter, de transcender, de sauver la romanité, de l'apporter aux populations, de la christianiser. Si au IVe, Ve siècle, les invasions barbares représentent un danger réel pour les populations romaines et gallo-romaines, installées donc en Gaule, en Europe, devant l'effondrement de l'Empire romain. Alors, l'Empire romain, le limès, qui a la grande période de l'apogée romaine, c'est Auguste. Ensuite, vous avez la construction du limès au nord qui empêche les barbares de passer. On se protège et puis ensuite, ben, les barbares passeront parce que le limès est franchissable. Et l'Empire romain s'effondre. Cet effondrement, c'est les coups butoirs donnés par les populations germaniques, hein, d'origine germanique. Donc les Saxons, les Vandales, le Léen et autres. Tout le monde les connaît. Mais si c'est un réel danger, il est vrai qu'il y a un danger encore plus grand, c'est que ces populations germaniques véhiculent l'arianisme avec eux. Il se trouve qu'un certain évêque, Ulfilas, vers 311, né à et puis mort à Constantinople vers 383, a prêché aux Goths, qui venaient là-bas vraiment du côté de la fin fond de l'Europe, au nord. Hein, et on prêchait, il a prêché donc aux Goths un arianisme mêlé donc un christianisme très mêlé d'arianisme. Et ces Goths qui envahissent donc l'Europe vont communiquer cette hérésie aux Ostrogoths, aux Visigoths, aux Vandales, aux Burgondes. Ce qui fait que l'ensemble, non seulement l'Orient, en Orient, l'arianisme s'était développé dans des proportions très inquiétantes, mais en Occident aussi, ce qui fait que si on regarde une carte de l'arianisme à cette époque-là, eh bien, on se demande si la romanité, l'orthodoxie romaine, va tenir. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est surtout ça qui est inquiétant. Il suffit de regarder la carte pour en être convaincu. Il n'y a pas, en Occident, de souverain catholique. Il y a des hérétiques. Hérésie d'autant plus dangereuse que les Ariens sont d'une cruauté sans nom, de véritables bolcheviques avant la lettre. J'en veux pour preuve ce document, qui n'est pas très long, mais que je vais vous lire in extenso. S'il y a vraiment des oreilles fragiles, j'allais presque dire s'abstenir, mais enfin bon, c'est Victor de Vita qui a vécu ça en 483, qui a vu une déportation vers le sud de catholiques. Les Visigoths les avaient en vendaient, n'est-ce pas, les Ariens en vendaient aux morts, et puis les morts les déportaient en Afrique. L'ennemi cherche les réduits les plus sordides pour y incarcérer l'armée de Dieu. Alors on leur refuse même la consolation de recevoir des visites. On place les sentinelles aux portes, on les tourmente gravement. Les confesseurs du Christ sont tassés les uns sur les autres. Vu l'exiguïté du lieu, comme une nuée de sauterelles, ou, pour parler plus exactement, comme les grains du plus précieux froment. Dans cet entassement, il n'y avait pas moyen de s'écarter pour satisfaire ses besoins naturels. Sous l'effet d'une nécessité pressante, ils faisaient leurs excréments et urinaient sur place. L'affreuse puanteur est alors un tourment pire que les autres. En soudoyant à grands frais les morts, nous fûmes admis, parfois pendant le sommeil des Vandales, à pénétrer en secret jusqu'à eux. À l'entrée, nous sentîmes plonger jusqu'aux genoux dans un abîme de fange. Nous voyons alors l'accomplissement de la parole de Jérémie. Ceux qui avaient été élevés dans la pourpre ont embrassé leurs propres excréments. Finalement, les morts, hurlant partout à la fois, leur enjoignirent de se préparer pour la suite du trajet prévu. Ils sortirent, donc un dimanche, les vêtements et la face souillée d'immondices, mais malgré les cruelles menaces des morts, ils chantaient avec exultation cet hymne au Seigneur, « Voyez la gloire réservée à tous ses saints ». Et en Tunisie, la mosaïque d'Oupena, vous pouvez voir sur cette mosaïque le nom des martyrs, martyrs victimes des Ariens, Pierre, Paul, Saturnin, prêtre, un autre Saturnin, Donna, Gudulda, Paul, Claire, Lucille, Fortuna, Yader, Cecilius, Emilius, qui souffrirent leur passion le 5 août et dont les reliques furent déposées le 8 novembre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes. Tout ça est connu par la chrétienté, par les évêques, par le pape, et inquiète. On s'en doute. Les évêques, que va-t-il advenir de nous? Et c'est ça le vrai problème. Le vrai problème du moment est religieux et non pas politique. À une époque où ces gens-là ne séparaient pas le politique du religieux, il y a un historien qui a dit où ils avaient une incapacité mentale. Je ne sais pas si c'était une incapacité mentale, enfin, passons là-dessus sur le mot, mais le politique et le religieux sont intimement liés. Donc, la vraie question, c'est arianisme ou orthodoxie romaine? Qu'est-ce qui va l'emporter? Et là, il y a de quoi être inquiet. Alors, les évêques, dans ce monde, cherchent un prince païen qui pourrait, peut-être, les aider à sauver la chrétienté. Parce qu'il vaut mieux un païen qu'un arien. Et c'est ce que cherchent les évêques. Si on a un païen, on pourra le convertir. On le convertira à la vraie foi. Si c'est un arien, ce n'est pas la peine d'assister. Et justement, vient d'être élevé sur le Pavois, dans le petit royaume franc de Tournai, un chef, Clovis, en 480. Saint Rémy, qui est à l'affût, pourtant, Tournai, enfin, oui, certes, Reims et Tournai, c'est pas très loin, bien entendu, enfin, à l'époque, les informations ne circulent pas à la vitesse où elles circulent aujourd'hui. Eh bien, il saisit immédiatement cette occasion pour envoyer une lettre de félicitations à ce roi païen. Cette lettre que l'on trouve très facilement dans le livre Clovis de Godefroy Curt, page 212-213. « Une grande rumeur est arrivée à nous, » écrivait l'évêque de Reims. « On dit que vous venez de prendre en main l'administration de la deuxième Belgique. Ce n'est pas une nouveauté que vous commenciez à être ce qu'ont toujours été vos parents. » Un petit coup d'encensoir au passage. « Il faut veiller tout d'abord à ce que le jugement du Seigneur ne vous abandonne pas et à ce que votre mérite se maintienne au sommet où l'a porté votre humilité. » Car selon le proverbe, les actes des hommes se jugent à leur fin. Vous devez vous entourer de conseillers qui puissent vous faire honneur. Pratiquez le bien, soyez chaste et honnête. C'est pas superflu. Montrez-vous plein de déférence pour vos évêques et recourez toujours à leurs avis. Si vous vous entendez avec eux, votre pays s'en trouvera bien. Encouragez votre peuple, relevez les affligés, protégez les veuves, nourrissez les orphelins, faites que tout le monde vous aime et vous craigne, que la voix de la justice se fasse entendre par votre bouche. N'attendez rien des pauvres ni des étrangers et ne vous laissez pas offrir des présents par eux. Que votre tribunal soit accessible à tous, etc. Godefroy Curt, qui pourtant est un historien pénétrant, dit que cette lettre finalement contient que des conseils généraux, des recommandations banales. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Lorsque on n'a pas encore... Alors évidemment, nous avons toute l'histoire pour pouvoir juger par derrière, avoir du recul. Mais lorsqu'un évêque dit à un roi païen, encouragez votre peuple, relevez les affligés, protégez les veuves, nourrissez les orphelins, faites que tout le monde vous aime et vous craigne, la voie de la justice, honorez le Seigneur, respectez les évêques, en prenant ces éléments bout à bout, nous avons le serment du sacre des rois de France. C'est en germe là-dedans. Alors quand il dit que c'est pas important et c'est banal, je ne suis pas du tout d'accord. Ou bien au contraire, c'est capital ce texte. Ça met immédiatement Clovis dans le bain. Pour employer une expression un peu familière, mais c'est ça. Il lui dit clairement ce qu'il doit être comme roi. Il définit sa ligne. Et ça, c'est capital. Alors, Clovis, en 486, commence donc la conquête de la Gaule. Il se porte, alors là je trace rapidement un certain nombre de combats dont il faut parler, mais qui ne sont pas essentiels à notre propos. Il écrase Syagrius, le fils d'Aegedius, c'est-à-dire le général romain qui tient un pays situé entre la Somme et la Loire. Et ce personnage a des sympathies ariennes. Et il est suspect aux évêques. Alors Clovis, qui a commencé déjà à avoir des relations avec ses évêques, sent qu'il est important de les avoir dans sa poche, parce que ces gens tiennent les cités, et qu'après tout, non seulement c'est bénéfique pour lui, faire une conquête, il va se tailler un royaume, et en plus il fait plaisir aux évêques. Il rentre dedans, tue Syagrius, et la conquête est commencée. Après un temps de repos, il reprend sa campagne, qui va se dérouler plus calmement. Plus calmement, les évêques interviennent diplomatiquement, et puis Clovis se fait le protecteur des populations, c'est le protecteur des évêques, il écoute les évêques, et il y a le fameux passage que tout le monde connaît sur le vase de Soissons, qui montre ce respect hein, qu'il a. Bon, passons sur l'épisode lui-même. Hein. Mais cette conquête, il reste les Visigoths. Alors, pour vaincre les Visigoths, ils sont assez puissants, il essaye de se rapprocher des Burgondes. Les Burgondes sont ariens. Mais, grâce à l'entremise de Saint-Rémy, qui travaille en sous-main comme ça, tout doucement, qui a préparé la fille du roi des Burgondes, Gondebeau, Clotilde, qui est catholique, il l'a fait épouser par Clovis. Il avait les scrupules, c'est un roi païen, mais Saint-Rémy a une idée derrière la tête. Il se dit que cette femme arrivera à convertir le païen. Et ça, c'est une chose très importante, au passage à préciser, le rôle des femmes dans cette période du début du christianisme, et même plus tard, le rôle considérable qu'elles ont joué hein, auprès des hommes, c'est un point de vue religieux que politique, pensons à Sainte-Geneviève au passage. Alors, Clotilde aime son mari, et à force de patience, d'amour, elle va tout doucement arriver à arracher, mais la partie est dure. Hein, il tient, il est superstitieux, il tient à ses dieux. Alors elle met tout en jeu. Elle obtient le baptême pour le premier fils, Ingomir. Malheureusement, l'enfant meurt quelque temps après. Hein, pour Clovis, c'est logique. Si j'avais consacré à mes dieux, ça serait bien passé, il serait encore en vie. Donc, Clotilde prie, pleure, elle dit rien. L'année suivante, il y a Clodomir qui vient consoler les parents. Clovis de nouveau accorde le baptême, c'est dire s'il aimait sa femme. Mais sitôt après, l'enfant commence à languir. Alors là, Clotilde pleure, supplicie, elle dit écoutez, ça suffit. Hein? Comment est-ce que j'y arrive, moi? Si j'ai pas d'aide, je m'en sors pas. Ben, l'enfant guérit. Il n'a rien à faire. Le païen refuse de voir une guérison miraculeuse due à la puissance du Dieu des chrétiens. Une tête dure. Mais finalement, le temps conspire, le temps, les événements conspirent contre les croyances de Clovis. En 496, c'est un tournant décisif. Vous avez les Alamans qui sont proches, très proches des frontières du royaume franc et qui constituent évidemment un danger non négligeable. Alors, Clovis engage le combat, combat acharné, tout le monde connaît, avec les Alamans. À un moment donné, les Alamans, donc les Francs faiblissent, c'est net. Et la chronique du temps, Grégoire de Tours, nous dit Clovis lève les bras au ciel. Jésus-Christ, toi qui es, selon Clotilde, le fils du Dieu vivant, secours-moi dans ma détresse. Et si tu me donnes la victoire, je croirai en toi et je me ferai baptiser. Bon, quelle que soit la discussion qui peut s'engager sur la véracité de ce que rapporte Grégoire de Tours, quoi qu'il en soit, comme nous savons que Clovis est converti, que ce soit ça qu'il est converti, que ce soit Clovis, en tout cas, nous savons que c'est à la suite d'un certain nombre d'événements, dont probablement cette bataille a joué un rôle, qui aurait provoqué la conversion de Clovis, puisqu'à la suite de cette prière, nous dit-il, les Alamans perdent du terrain et les Francs les écrasent. Donc une victoire qui sera à l'origine de la conversion de Clovis. J'arrive donc ici à ma deuxième partie, 496, la conversion. Alors, Clovis va recevoir une solide instruction sur les mystères catholiques qui lui sont dispensés par Saint Vaast. Saint Vaast. Alors, Saint Vaast entreprend Clovis sur les évangiles, les écritures. On nous rapporte même que lorsqu'il a entendu les récits de la Passion, il s'est levé, il a sorti son épée, que je n'étais là avec mes intrusions pour tous leur rentrer dedans, hein, et puis défendre le Christ. Bon, ça montre la fougue, la générosité du soldat, mais quelqu'un qui, à ce moment-là, n'avait pas tout à fait encore compris que, bon, c'était pas le but du jeu. Au bout d'un certain temps, Saint-Rémy juge donc l'instruction suffisamment avancée et fixe le baptême au 25 décembre 496. Alors, il y a 498 qui est avancé, il y a 3 ou 4 dates, 501, 500, 520, bon, peu importe. Beaucoup d'historiens lui préfèrent la date de 496. Là encore, c'est sur la chronologie proposée par Grégoire de Tours et les sources. Aurait-il fait tel combat avant, après son baptême, sa conversion? Bon, peu importe. Et là, c'est extraordinaire parce que les évêques, ces évêques sont des évangélisateurs, sont des christianisateurs. Ils sont face à un monde païen. Pour couper toute racine au paganisme, eh bien, il faut le remplacer par quelque chose. Mais il faut que ce remplacement du paganisme se fasse par des événements qui aient une portée symbolique et qui puissent complètement gommer le côté païen. Donc, le 25 décembre, c'est la naissance du Christ, mais c'est en même temps la naissance de la France catholique. Et il est absolument impossible que Saint-Rémy n'ait pas choisi ça pour cette raison-là. Sinon, ce ne serait pas Saint-Rémy. Il ne serait pas un évêque missionnaire. Donc, ils savent très bien ce qu'ils faisaient. Ils savaient d'abord très bien ce qu'ils faisaient en essayant d'attirer Clovis, en obtenant sa conversion, et ensuite en mettant cette conversion et son baptême le 25 décembre. C'était la naissance du Christ, c'était la naissance de la France chrétienne, c'était la conversion de Clovis. Il y a tout un symbolisme ici qui est très beau. Alors, c'est à Reims, ville où on pense que Clovis a été baptisé. Alors, le baptême de Clovis n'est pas le sacre. Ça n'a rien à voir. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc, le matin, le jour de la fête de Noël, la ville est décorée, drapeaux, lumière, c'est magnifique, le peuple est en allégresse, surtout les catholiques. Surtout les catholiques, on va avoir un roi catholique. Enfin. Et c'est ça qui les met en joie. Alors, l'encens fume, c'est fantastique, hein, on a des descriptions extraordinaires. Et on a un défilé. Il s'avance, le nouveau Constantin, écrit un contemporain, vers la piscine baptismale pour se guérir de la lèpre du péché, et les vieilles souillures vont disparaître dans les jeunes ondes de la régénération. C'est très beau. Hein. Ce nouveau Constantin. Alors, Constantin, l'édit de Milan, 313, hein, c'est déjà deux siècles avant. Donc c'est le nouveau Constantin. Alors le défilé entre dans l'église, la croix, les livres sacrés, Clovis, dont l'évêque tient la main pour lui servir de guide. Derrière lui, Clotilde, qui elle, évidemment, est l'héroïne de cette journée. Clotilde, la princesse. Un certain nombre d'autres princes et princesses qui l'accompagnent. 3000 francs. La bande du roi, pas toute l'armée, une partie de l'armée est déjà démobilisée. Un certain nombre sont païens. Mais Clovis s'est informé avant. Ça n'a fait aucune difficulté. La plupart des intrusions lui ont dit, si tu te convertis, on te suit. C'est une clientèle. On suit le prince. La cérémonie commence, litanie, les chants. C'est tellement beau que Clovis lui-même demande à Saint-Rémy « Est-ce là le royaume du ciel que tu me promets ?»« Non, mais c'est le commencement du chemin qui conduit, » répond Saint-Rémy. Clovis, dans sa naïveté, est absolument en admiration. Il n'a jamais connu ça. Il découvre quelque chose. Et puis, il lui confère le baptême, hein, plongé dans l'eau baptismale. Et bien, si Cambre, répondit le confesseur, incline humblement la tête, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. Ça, ça me fait penser à Jean-Charles, un élève qui aurait écrit Courbe la tête, fier concombre. Adore ce que tu as brûlé, boule ce que tu as adoré. Bon. En cette époque d'inculture, on voit tout. Le roi déclare renoncer au culte de Satan, fait profession de foi catholique. Profession de foi en la Sainte Trinité. Il reçoit la triple immersion sacramentelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il reçoit au sortir le sacrement de confirmation. Et c'est là, dit la chronique, que ben, les huiles, le Saint-Crème n'étaient pas présents. Alors, les diacres qui sont allés chercher sont coincés par la foule. Alors, on est bloqué. Alors, Clovis, dans sa foi naïve, lève les bras au ciel et supplie le ciel. Et la chronique nous rapporte que, à ce moment-là, le crème est apporté par une ampoule est apportée par une colombe pour ondoyer, colombe qui symbolise le Saint-Esprit, c'est la confirmation, c'est logique, c'est de rigueur, qui apporte donc cette sainte ampoule. D'autres traditions un peu plus tardives disent que Saint-Rémy se serait tourné, et aurait vu sur l'autel les fioles qui contenaient le nécessaire pour confirmer, mais ces chroniques en parlent comme d'un miracle quand même. Alors il y aurait deux ou trois sources, Inkmar, etc., mais beaucoup plus tardives. Et donc, eh bien, le baptême est terminé, c'est fini, Clovis sort, hein, un certain nombre de ses soldats ont été baptisés avec lui. Et là, eh bien, pour l'ensemble des catholiques, pour l'ensemble du peuple chrétien, c'est la victoire du consubstantiel. Les évêques sont contents, c'est l'allégresse. On verra même, citerai même d'ailleurs des lettres d'évêques remerciant Clovis, le bénissant. La catholicité est sauvée. C'est un nouveau Constantin. Sitôt sorti, eh bien, les conquêtes vont reprendre. Il s'agit d'éteindre l'arianisme. Alors, on nous rapporte une parole de Clovis. Je supporte avec impatience que ces Ariens possèdent une partie de la Gaule. Marchons avec l'aide de Dieu, et après les avoir vaincus, réduisons le pays en notre pouvoir. C'est un mot de Grégoire de Tours qui est prêté à Clovis et qui traduit les préoccupations du moment. Ça signifie en tout cas que les évêques sont derrière lui et comptent sur lui. Ils comptent sur Clovis. Et Clovis reprend le combat. Et là, il se tourne vers les royaumes ariens du Midi, notamment les Visigoths. Alors, il va tenter d'envahir le royaume de Burgonde, mais il échoue vers 500-501. Donc, comme il ne peut pas écraser les Burgondes, en attendant, il s'en fait un allié. Et avec leur aide, il va écraser les Visigoths. Et il tue le roi des Visigoths, Alaric II, à Vouillé en 507, la fameuse bataille de Vouillé. Alaric a un gendre qui s'appelle Théodoric, roi des Ostrogoths. Théodoric est arien. La solidarité arienne joue. Théodoric n'a pas envie de voir le royaume visigothique complètement écrasé. Donc, il intervient pour empêcher l'effondrement. Quoi qu'il en soit, l'empereur de l'époque, Anastase, qui était brouillé avec Théodoric, avait soutenu Clovis dans son entreprise contre les Visigoths, et il avait été appelé par les évêques catholiques du royaume Visigoth. Et là, Clovis a mené une véritable guerre de libération. C'est même un mot employé actuellement par des historiens concernant la période historien universitaire. une guerre de libération. Et c'est bien ça, c'est une guerre de libération, libération de l'Occident, de l'arianisme, de cette hérésie qui empoisonne, qui a empoisonné l'Orient et qui a empoisonné l'Occident. Sachant qu'en Orient, il y avait un évêque à l'époque qui était parti, qui avait protesté, qui avait été le plus fervent défenseur du consubstantiel de la catholicité, saint Athanase, évêque d'Alexandrie, et en France, saint Hilaire de Poitiers. Saint Hilaire de Poitiers qui s'est retrouvé tout seul face aux autres évêques qui avaient été travaillés par l'empereur, il a été exilé. Là, d'ailleurs, il y a à toute l'époque antérieure, enfin, cette époque de l'arianisme, une lâcheté épiscopale extraordinaire. On a l'impression qu'en d'autres temps, on a retrouvé ça, qu'on est même en train de le vivre. Qu'on le vit. Bon, à propos du concile de Séleucie, où on avait, c'est pas de bêtises, hein, où de son exil, saint Athanase, saint Hilaire, avait entendu justement à Rimini, pour les évêques d'Occident, réunis en Italie à Rimini. Je vais vous donner les propos de saint Hilaire, évêque de Poitiers, lorsqu'il apprend que l'ensemble des évêques dans son exil se sont ralliés à l'arianisme. Comment, à Constantinople, après le concile de Séleucie, vous allez aussitôt vous joindre aux hérétiques qu'il a condamnés? Vous ne prenez même pas le temps de vous informer. Les délégués du concile oriental viennent vous trouver, ils vous mettent au courant des faits, vous montrent que l'hérésie vient d'être condamnée. Alors ensuite, il rajoute quelque chose qui est extrêmement dur. Un esclave, je ne dis pas un bon esclave, mais un esclave passable, ne supporte pas qu'on injurie son maître. Il le venge, et s'il peut le faire. Un soldat défend son roi, même au péril de sa vie, même en lui faisant un rempart de son corps. Il va plus loin. Un chien de garde aboie au moins de bruit, s'élance au premier soupçon. Vous vous entendez dire que le Christ, le vrai fils de Dieu, n'est pas Dieu, et votre silence est une adhésion à ce blasphème, et vous vous taisez. Que dis-je? Vous protestez contre ceux qui réclament. Donc, on voit très bien, encore une fois, la gravité de ce mal et pourquoi la conversion de Clovis est acclamée comme une véritable libération. Le 27 novembre 511, à 45 ans, Clovis Ier meurt et il n'a pas conquis toute la Gaule. Mais son règne marque un tournant capital et il est une révolution dans bien des domaines. Et c'est maintenant ce que nous allons voir et ce dont nous allons discuter un peu plus en détail que je ne l'ai fait sur la présentation, puis c'est ça que j'estime être l'essentiel, la portée du baptême, la portée de cette conversion, sa signification profonde et ce qu'elle entraîne. Alors, cette conversion marque, couronne l'œuvre d'évangélisation des évêques. Donc, elle marque un certain terme, une étape. 496, c'est une réussite des évêques. Ils y voient d'ailleurs le signe, le doigt de Dieu. Dieu nous a exaucés. Nous avons notre roi. Et le seul roi qui est capable de faire des conquêtes et de rassembler. Pourquoi? Parce que partout, il y a des populations qui subissent le joug arien, qui est épouvantable, comme vous l'avez vu à travers le texte que je vous ai lu. Et les populations catholiques, les évêques l'appellent et ils favorisent. Et comme les évêques ont un réel pouvoir, on ouvre les villes, et Clovis est accueilli. Donc s'il n'y avait pas eu des clientèles, des relations entre des souverains barbares, tout se serait effondré, beaucoup plus rapidement, peut-être. Mais en tout cas, là, c'est déjà extraordinaire. Et il faut bien savoir qu'aucun royaume barbare ne survivra, si ce n'est la construction de Clovis. On peut vérifier. Et 496 marque le début d'une ère nouvelle pour la civilisation européenne. Car c'est bien de ça qu'il s'agit. Aussi, j'aborde donc ma troisième partie, une profonde révolution. 496, une profonde révolution. Au bon sens du terme, entraîne des changements. Révolution religieuse, révolution politique, révolution sociale. Révolution religieuse. C'est le triomphe du monothéisme sur le polythéisme. Le paganisme va disparaître. Déjà. Certes, il reste des païens dans les campagnes, mais la conversion de Clovis signifie que les évêques ont un roi catholique et qu'il fera tout pour diffuser le catholicisme. Donc c'est le triomphe du monothéisme. Là, on quitte vraiment l'Antiquité. L'Antiquité, c'est, sur le plan religieux, le polythéisme, le panthéisme. Là, c'est l'affirmation de la transcendance, c'est l'affirmation du Dieu révélé, incarné et mort sur la croix. Chose très importante, c'est que l'exemple vient de haut. Il vient du chef. Et le chef, on connaît très mal ces populations, et très souvent, on peut faire des contresens. Il faut bien voir une chose, c'est qu'à cette époque-là, le chef et ses soldats sont très liés, beaucoup plus liés, qu'on ne peut être même lié, j'allais dire, aujourd'hui, dans notre famille élargie. À cette époque-là, les liens étaient très solides. Une société où les liens d'homme à homme sont très forts. Et quand on n'est pas lié, qu'on n'a pas une clientèle, qu'on n'est pas lié à quelqu'un, on n'est rien. On n'est rien. Et là, c'est très important chez les Germains. Donc, on fait confiance au chef, on suit le chef. Et on se convertit avec le chef. Ce qui fait que le paganisme ne peut absolument plus compter sur un soutien politique. C'est fini. Il n'a plus de soutien. Le catholicisme devient religion officielle du prince, avec devoir de favoriser son extension et d'aider les missionnaires à extirper le paganisme. Donc le roi va prendre ce rôle au sérieux. Et Clovis va le prendre au sérieux, nous allons le voir. La conversion de Clovis renverse donc les rapports de force, le rapport de force en faveur des catholiques contre les Ariens et les païens. Clovis, c'est le candidat des évêques qui a réussi et qui l'a emporté sur l'arianisme. La victoire de Clovis, d'un Clovis catholique, c'est assurer la stabilité de l'Occident romain définitivement. Il n'y avait personne véritablement pour récupérer le véritable héritage romain. Cet héritage, c'est les évêques qui l'ont. Les évêques ont assimilé la romanité à tel point que le langage de l'Église catholique, diocèse, légat, tout ce que vous voulez, les vêtements, c'est romain. Le christianisme a assimilé la romanité et l'a transcendée, l'a portée à sa perfection. Donc, ce n'est pas Clovis qui va récupérer la romanité, c'est les évêques qui donnent la romanité à Clovis, contrairement à ce qu'ont dit certains historiens. C'est faux. C'est pas Clovis qui est allé les chercher, c'est eux qui sont allés chercher Clovis, qui l'ont converti et qui en ont fait un héritier de l'orthodoxie romaine, hein, du catholicisme. Ça, c'est très important. Les évêques sont allés le chercher. Et là, nous avons donc, à partir de ce moment-là, un peuple et un prince qui sont au même diapason. Et un peuple qui souffle, qui peut souffler. Hein. L'arianisme, c'est un... Ça va devenir un cauchemar déjà ancien. Cette paix, sur le plan religieux, cette nouvelle paix, en quelque sorte, dont bénéficie l'Église catholique en Gaule, en France, et dorénavant un christianisme qui va se propager à très grande vitesse dans l'Occident, c'était déjà extraordinaire entre le 1er et le 5e siècle, mais entre le 5e et le 10e siècle, c'est tout l'Occident qui va se convertir à l'orthodoxie romaine. Eh bien, cela permet à l'Église de développer ses œuvres. Elle passe, encore une fois, de la période de la persécution à la période de paix qui lui permet de se développer. Constantin, avant 313, édit de Milan, persécution. Les persécutions romaines, là aussi, vous savez ce que ça a donné. Après, l'Église peut souffler et développer ses œuvres. Mais contrairement à ce qui se passe, contrairement à l'Orient, oui, en Orient, le christianisme se développe, mais au moment où il est reconnu, se développe l'arianisme. Et là, l'Église va avoir un certain nombre de difficultés avec Satanas. Là, au moment où le christianisme est reconnu, il est défendu par un roi vraiment catholique, et toute une lignée de rois qui sera catholique jusqu'à la Révolution française. Il n'y a pas une erreur. Il n'y a pas une erreur. Il y a peut-être des Mérovingiens plus ou moins minables, plus ou moins bons. Il y a un Dagobert qui est un homme prodigieux. Bon, un certain nombre de Mérovingiens, plus ou moins politiques, mais il n'y a pas de dérapage sur le plan religieux. Si vous regardez dans l'Empire à partir de Constantin, vous avez des empereurs chrétiens, alors catholiques, après ariens, semi-ariens, plus ou moins ariens, un peu plus ariens que l'autre, un peu plus païen qu'arien, l'autre qui fait ses mélanges. Enfin, vous avez Julien l'Apostat. Et puis alors des guerres continuelles pour se récupérer une partie de l'Empire entre l'Orient et l'Occident. Là, vous n'avez pas ça. Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une construction qui devient stable et qui va perdurer. Et c'est ça qui est important. Saint Avit, évêque de Vienne, écrit à Clovis après son baptême. Il lui conseille de propager la doctrine du salut au peuple germanique plongé dans les ténèbres et de leur envoyer des missionnaires. Le roi est donc, dès qu'il a été baptisé, et il est au service de la chrétienté, et le roi est lui-même missionnaire. Il est enrôlé dans ce mouvement d'évangélisation et de mission qui est en train de couvrir l'ensemble de l'Europe et se diffuser à très grande vitesse. Lui aussi a été piqué par le virus du christianisme, du catholicisme. Il faut qu'il le communique aux autres. Et cette propagation va continuer. Et il doit jouer ce rôle en tant que souverain chrétien baptisé, converti. Il doit le jouer. Il va jouer le jeu. Il va jouer le jeu. Il doit favoriser l'évangélisation. Parce que si vous regardez, là encore, si on regarde la diffusion du catholicisme, du christianisme, de l'orthodoxie romaine, dans une Europe où il n'y a pas de soutien politique, les évêques sont martyrisés, les évêques sont victimes de petits princes locaux. Quand c'est en Allemagne, il faut regarder avec Saint Boniface, c'était terrible, Saint Boniface terminera massacré. Hein, bon, c'est plus tard, bien sûr, c'est entendu, mais chez les Saxons, ils ne sont pas encore au stade où en sont les Francs à ce moment-là. Les Saxons, Charlemagne, quand Charlemagne montera taper sur les Saxons, il y a les Sarrasins qui remontent. Donc il faut aller taper sur les Sarrasins. Puis quand il a tapé sur les Sarrasins, ben, il faut remonter là-haut parce qu'il y a les Saxons qui redémarrent. Il a fait ça sans arrêt. Et il faut bien défendre ses évêques, ses moines. Parce qu'à tous les coins de bois, à tous les moments, ils risquent de... Hein. Et puis, le rôle que peut jouer aussi un souverain chrétien, c'est de pouvoir... donner la puissance nécessaire à tel ou tel évêque, à tel ou tel légat du pape pour faire la réforme qu'il faut faire. Et s'il n'y a pas de soutien, on ne peut pas faire cette réforme, parce qu'on finit par... on a des querelles d'évêques. Il faut bien les contrôler. Donc s'il n'y a pas cette hiérarchie catholique à la base, le christianisme avance, mais beaucoup plus douloureusement que s'il était aidé par un souverain. C'est une évidence. Et en tout cas, l'histoire de la chrétienté... Je m'en suis rendu compte moi-même en essayant de regarder un petit peu l'ensemble de ces moines, de ces évêques, de tous ces saints, plus ou moins bien connus, qui ont évangélisé entre le 1er et le 10e siècle. C'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. La plupart, évidemment, meurent martyrs. Il suffit qu'ils aillent toucher une idole pour que la population les massacre. Révolution politique. Révolution politique. La conversion de Clovis... entraîne aussi la christianisation des charismes royaux. Et ça, c'est fondamental. Les Germains apportaient la royauté. Les Germains, la royauté. Ce sont des peuples guerriers, la royauté. Si vous regardez, si on prend le substrat gaulois, c'est la société trifonctionnelle. Si on regarde les Romains, c'est le droit romain. L'urbanisation... l'armée régulière, l'administration, ce droit écrit. Si on prend les Germains, c'est la royauté et le droit coutumier. Tout ça, ce sont des pratiques, bien sûr, imprégnées de paganisme. Il faut les christianiser. Or, le baptême de Clovis va avoir une répercussion, des conséquences incalculables. Il va christianiser les charismes royaux. La cérémonie miraculeuse du baptême devient le symbole même d'un pacte entre le ciel et la France. Et c'est perçu comme tel. Hein, je dis bien que c'est perçu comme tel. On est dans une atmosphère de début du christianisme, où la foi des chrétiens et des évêques transporte des montagnes. Et donc, les gens dans cette pureté du christianisme débutant y croient profondément. Et pour eux, il y a eu un pacte miraculeux qui s'est fait entre le ciel et la France. une ratification du choix de Saint-Rémy. Ça a été perçu comme tel. Encore une fois, je pèse mes mots. Et de là va découler de ce baptême, quelque chose de très important, le sacre des rois de France, qui tire son origine de cette cérémonie, de cette conversion. Sacre qui va ressembler à l'onction des rois d'Israël. Désormais, le souverain devient le lieutenant de Dieu sur la terre, roi de droit divin. Il ne faut pas attendre Louis XIV pour avoir un roi de droit divin. C'est dès le début. C'est dès le début. Ça, c'est les anciens manuels scolaires ou une ancienne propagande anticléricale et révolutionnaire qui nous a sorti des âneries de ce genre. Mais l'historien d'aujourd'hui ne peut plus se contenter de balourdises ou de calembredaines de ce genre. N'est-ce pas? Eh bien, le lieutenant Dieu sur la terre, c'est dès le début. Il y a un pacte signé entre le roi de France et le ciel. Mais en sacrant les rois, l'Église entendait montrer qu'elle seule a une autorité morale, d'une certaine manière, sur le temporel. Le roi, dans la pratique, on n'est pas dans une théocratie, le roi gouverne bien, mais il a des contrats à rendre à Dieu, et partant à l'Église, l'Église ayant des armes pour pouvoir punir le roi au besoin. Et ici, c'est très important, parce que l'Église donne un idéal. Et il est extraordinaire de voir tous les conseils donnés par Saint Grégoire le Grand, les papes successifs, à tous les mérovingiens ou carolingiens, c'est toujours comme ça. Pensez à votre peuple d'abord, le salut de votre peuple, votre salut, protégez-les, défendez-les, etc. La lettre de Saint-Rémy, le serment du sacre, hein, elle lui fournit l'idéal vers lequel la cité temporelle doit tendre. C'est une phrase que j'ai prise dans un livre de mon vénéré maître René Feydeau, Les toits au Moyen-Âge, hein, qui était un grand médiéviste, encore vivant à Lyon en retraite, et un grand catholique, un grand médiéviste, un homme tout à fait remarquable. Eh bien, Charlemagne et Saint-Louis mèneront chacun leur manière, mais le plus possible leur royaume vers cet idéal. Ils tenteront, Charlemagne va tenter, Saint-Louis en allant beaucoup plus loin. Au passage, précisons que le premier souverain sacré, c'est Pépin le Bref. Son épouse, c'était Berthe au Grandpied. C'est vrai, c'est Berthe au Grandpied. Lui, Pépin le Bref, peut-être parce qu'il n'était pas très haut. Hein. Et puis que Berthe avait peut-être effectivement des grands pieds. Mais on aime bien donner des surnoms au Moyen-Âge. Hein. Il y a le long, le court, le gros, le hardi, le pugnace, le juste, tout ce que vous voulez. Il est sacré, Pépin le Bref est sacré en 751 par Boniface et par ensuite le pape Étienne II à Saint-Denis en 754. Très important parce que il y a les Lombards qui ont attaqué Rome, Pépin le Bref va défendre la papauté, ensuite Charlemagne défendra, pour ça qu'il recevra la couronne impériale, l'Église montrant par là encore une fois que c'est elle qui fait les princes, les souverains, tout en leur laissant leur marge de manœuvre et leur liberté dans le temporel, dans ce qui est au quotidien, mais sous d'une certaine autorité morale, autorité religieuse, qui est celle des papes. L'autre conséquence politique, c'est que le peuple de la Gaule, largement christianisé, se trouve désormais en communion avec son roi et ne lui marchande pas son adhésion. C'est-à-dire que le roi peut enfin construire un État cohérent, un royaume, fédérer les cités, obtenir l'adhésion de l'ensemble de son peuple, parce que ce peuple est catholique et que lui est catholique. Donc là, une construction peut se faire. C'est pour ça. Hein. Avoir un roi catholique, comme nous l'avons dit, pour ces gens-là, ça représentait cette réponse du ciel. Hein. Donc l'union du royaume est réalisée grâce au baptême. Entre le roi, les évêques et le peuple, il y a désormais une connivence, il y a désormais une relation étroite, une relation familiale, mais de la famille chrétienne, grâce au baptême, l'union politique et l'union religieuse. C'est fondamental. C'est ça qui sera brisé en 89. C'est ça qui sera brisé lorsqu'en 93, les Jacobins casseront sur le parvis de Reims la Sainte-Ampoule. lorsqu'ils déterreront de façon macabre à Saint-Denis les cadavres des rois et qui jetteront ça à la fosse commune. Ils ont commis un véritable sacrilège. Ils ont touché à la chose la plus sacrée qu'il y avait en France. Et la France a perdu sa tête, a perdu la tête depuis ce jour-là. Parce qu'il n'y a plus cette union politique et cette union religieuse. La France ne peut pas se comprendre son histoire sans cette union politique et religieuse. Elle a été brisée à partir de ce moment-là, le peuple n'ayant plus sa tête, il ne sait plus où aller. Autre conséquence, le roi devient un soutien temporel de l'Église et donc un protecteur des membres du clergé. Saint-Rémy lui conseille d'être plein de déférence pour les évêques et de les consulter souvent. Très important, Saint-Rémy lui dit, les évêques sont des conseillers. Et nous verrons plus tard sous Charlemagne, lorsque Charlemagne crée son empire avec des comtés, des ducs, des marquisats, les comtes qui sont des administrateurs locaux d'un comté, sont adjoints un évêque. L'évêque, c'est lire, écrire. L'évêque, ça représente la loi de l'Évangile. Le comte, c'est un petit peu l'administration, c'est un petit peu le guerrier. Il faut lui apporter quelque chose qui aille au-delà de la simple administration. Et lorsque Charlemagne envoie une lettre, nomme des Missi Dominici, lesquels Missi Dominici répercutent des informations auprès des comtes, on dit bien, écoutez vos évêques. Ils sont là pour vous conseiller. Ainsi donc, alors que tous les royaumes barbares, comme je disais tout à l'heure, vont s'effondrer, bien sûr, Clovis va survivre. Sa conversion fonde l'unité religieuse et l'égalité politique entre Germains et Romains. Et ça, c'est encore quelque chose d'extraordinaire. Alors que chez Théodoric, Arien, il n'arrive pas à faire l'unité entre Germains et Romains, Clovis fait l'unité entre Germains et Romains. Une égalité politique, égalité de droit, sachant que les uns et les autres seront traités pendant un certain temps selon les lois qui les régissaient auparavant. On a là en germe tout ce que sera la France monarchique, avec ses libertés, avec ses privilèges que possède tout le monde. Enfin, une révolution sociale. Une révolution sociale. À mes yeux, c'est très important. Loi d'amour, puisque c'est ça l'Évangile, fait l'obligation aux chrétiens d'aimer et secourir son prochain. Les béatitudes. Aime ton prochain comme toi-même. Le bon samaritain. Eh bien, le roi épuise les principes du gouvernement de ses sujets. Et il est conseillé dans ce sens-là par les évêques. Et la lettre de Saint-Rémy à Clovis au début de son règne, c'est aussi une charte sociale. Défendre les pauvres, les veuves, les orphelins, ceux qui ont besoin d'être soutenus. Le clergé, c'est une charte sociale. Nous avons dit, c'est l'embryon du serment du sacre. Nous trouvons dedans aussi l'embryon des futurs conciles de paix de Dieu, trêve de Dieu, 989 Charroux, et ainsi de suite. La reconnaissance du christianisme et sa propagation modifient aussi les rapports hommes et femmes. C'est capital. Sainte Geneviève sauvait Paris et Sainte Clotilde convertissait Clovis. Mais au-delà de ces deux femmes exceptionnelles, il y a d'autres aussi exceptionnelles, mais moins connues de l'histoire, donc l'histoire a oublié. Eh bien, la femme fut un agent moteur dans l'Église. Son statut, grâce au triomphe du christianisme, son statut va s'améliorer. Elle a été la grande propagatrice du christianisme. Elle est désormais considérée à l'égal en dignité de l'homme. Et il y a des tribus gauloises, celtes, qui, lors de combats, utilisaient la méthode commando de choc. Dès que l'ennemi arrivait, on mettait les femmes devant. On pensait que ça pourrait faire quelque chose. Bon. C'est des méthodes que nous réprouvons, bien entendu. La place de la Sainte Vierge aussi est importante dans le christianisme. Et la place de la Sainte Vierge dans le christianisme a plus fait pour la promotion de la femme que tous les discours féministes. Bien plus fait. Et on est toujours ébahi et émerveillé des profondeurs abyssales de la bêtise contemporaine et post-révolutionnaire quand on vient nous dire que la femme au Moyen-Âge, on avait dit qu'elle n'avait pas d'âme. Dans ce cas-là, pourquoi des hommes auraient cru Geneviève? Pourquoi on aurait utilisé des femmes comme ambassadrices auprès de princes? Pourquoi on aurait accepté des moniales dans des couvents si c'était des animaux? Et pourquoi la Sainte Vierge était sur les autels? Donc déjà, ça, au niveau du simple bon sens, ça semble évident. Mais j'en avais parlé lors d'une précédente conférence, et j'en reparle actuellement, parce que l'événement est très proche, c'est ce fameux concile de 585 de Mâcon, petit concile de quelques évêques qui se réunissent, et il y en a un parmi eux qui n'a jamais posé la question de l'âme, mais il a posé une question d'ordre sémantique et grammatical. Est-ce qu'on peut appliquer le terme d'homo à l'homme et à la femme, ou employer le terme de weir ou pas? Ben, y a des évêques qui étaient là qui lui ont dit « Allez, rassis-toi, arrête de raconter des bêtises et puis tu te calmes. » Bon, mais finalement, il n'avait pas tort ce brave évêque, parce qu'il posait un problème important qui a définitivement fondé l'égalité de l'homme et de la femme reconnue par un concile. Donc c'est encore plus stupide de venir nous sortir des âneries de ce genre, parce que le concile déclare qu'il y a égalité entre l'homme et la femme, et donc le terme homo s'applique à l'homme et à la femme. Il veut dire homme et femme, compris dans un même genre, homme et femme. Si on emploie le mot weir, on emploie un mot latin qui veut dire viril, l'homme. Donc homo, c'est bien, ils ont été créés homme, mais homme et femme, c'est-à-dire homo, c'est le principe masculin et féminin. Comme dit Jacques Le Goff, qu'on ne peut absolument pas suspecter, historien de grande réputation, Jacques Le Goff dit « Ce concile lui-même consacrait définitivement, clairement, la dignité, l'égale dignité entre l'homme et la femme. » Et ça, on le voit au Moyen-Âge. Je ne conviens pas après sortir des calembres d'Aisne ou des choses qui ne tiennent pas la route. On a le document, c'est un texte de Grégoire de Tours, c'est clair. Mais ici, on voit les effets, les conséquences de cette conversion encore de Clovis. Doucement, donc, les principes évangéliques vont pénétrer et, la société. Et c'est ce que cherchent justement les évêques réunis par Clovis en 511 lors du concile d'Orléans. Et ce concile d'Orléans est quelque chose d'extraordinaire. Il est destiné à réorganiser l'Église. L'Église, à l'époque, n'est déjà plus toute jeune. Elle a 5 siècles. Donc réorganiser l'Église des Gaules. Concile local, présidé par Saint Cyprien, archevêque de Bordeaux et métropolitain de la première Aquitaine. Il nous révèle l'évolution de la société et de ses mœurs qui dépendent étroitement de l'entente entre le temporel et le spirituel. On y traite de la question du droit d'asile et du recrutement du clergé. Le droit d'asile, que l'on verra défendu lors de la grande période de la féodalité, donc 10e, 11e siècle, au concile de Charroux, paix de Dieu, trêve de Dieu. Je rappelle brièvement cette paix de Dieu, cette trêve de Dieu, la trêve de Dieu, on ne touche pas aux veuves, aux orphelins, aux personnes désarmées, aux clergés, à l'église. Si quelqu'un est poursuivi par la justice seigneuriale, il peut se réfugier dans l'atrium d'une église, embrasser, étreindre de ses bras une croix au bord d'un chemin, rentrer dans un cimetière, dans une chapelle, dans un presbytère, il est sous l'autorité de l'église. L'église le remettra lorsqu'il sera remis à ses juges légitimes qui le jugeront, et non pas pour le trucider. Et la paix de Dieu, c'est, eh bien, écoutez, vous vous battez, si vous voulez, si vous avez des querelles à vider, du lundi matin au lever du soleil, au mercredi soir au coucher du soleil. Mais pas le jeudi, parce que c'est l'institution de l'Eucharistie, pas le vendredi, c'est la passion du Christ, le samedi, il est au tombeau, et le dimanche, c'est la résurrection. Donc, n'y êtes pas ces jours-là, impossible, sinon vous êtes... C'est l'excommunication, le feu éternel, l'anathème de Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est très fort. Pour une société féodale, qui les serments, le serment, ils vont prêter serment à la suite de ça. Eh bien, nous l'avons en germe ici. Nous l'avons en germe ici. En germe, toute cette société chrétienne qui va se développer, qui va produire des monastères, des maladreries, des hospices, des œuvres de protection sociale qu'aucune civilisation n'a connues. Aucune dans l'humanité n'a connu un tel développement de charité, de dévouement à l'égard des autres, en s'oubliant soi-même. Jamais. Il n'y en a pas d'exemple. Le concile interdit à l'autorité publique de pénétrer dans les sanctuaires ou toute habitation ecclésiastique pour y saisir des coupables. Interdiction au clergé de les livrer, avant que celui qui le poursuivait eût prêté le serment solennel sur l'évangile qui ne lui infligerait pas de châtiment corporel et qu'il se contenterait soit de reprendre son esclave, soit de recevoir une compensation. Si l'homme qui avait prêté serment le violait, il devait être excommunié. Très fort l'excommunication d'une société chrétienne où l'homme qui est excommunié est mis au banc de la société. Les évêques préparent donc cette société de droit qui va faire évoluer les mœurs vers plus de douceur. D'autre part, l'Église décrète dans ce concile qu'elle peut ordonner des esclaves. Très important. Cette décision va permettre à l'Église de faire évoluer le regard que l'on a vis-à-vis de l'esclave et le statut de l'esclave. C'est-à-dire arriver à la disparition de l'esclavage. Il n'y a que l'Église qui a fait ça. Parce que pour l'Église, l'esclave est un homme. Mais dans une société où l'esclavage était important, on ne peut pas commencer à tirer au bazooka. Les évêques, ça ne marcherait pas. Donc commence à dire déjà, respectez vos esclaves. Ce sont des créatures de Dieu, ils ont une âme. Allez-y doucement. Et puis, on peut les ordonner parce que ce sont des hommes, ils peuvent devenir prêtres. Et le fait de l'ordination leur permettra d'être affranchis. Et l'Église, tout doucement, va entamer le statut juridique, éroder de l'intérieur le statut juridique de l'esclave, le ruiner complètement, et il disparaîtra. C'est une brèche importante qui est ouverte. Hein. Et progressivement, on verra aussi l'Église, plus tard, ruiner, dans le même sens, le statut de serf. Bien que le servage n'ait aucun rapport avec l'esclavage. Aucun. C'est un statut juridique, le fait que l'homme est attaché à la terre. Mais rien à voir avec l'esclavage. Je ne suis pas spécialiste de la, des aspects politiques et sociaux du Moyen-Âge, mais enfin, il suffit de lire quand même l'essentiel des historiens honnêtes, hein, même des gens comme Georges Duby, pour ne plus oser affirmer qu'entre serf et esclave, il y a identité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Même entre serf égale pauvre et homme libre égale riche. C'est faux. On a découvert des serfs qui étaient d'une richesse extraordinaire et puis des hommes libres qui étaient pauvres comme Job. Pour prendre un exemple même plus récent, en Russie, le servage ayant été aboli à la fin du 19e siècle, eh bien, il y avait des serfs russes qui étaient chefs d'entreprise, qui avaient monté des usines, qui vendaient, qui correspondaient, qui étaient toujours esclaves, qui étaient toujours serfs. Eh bien, ils prêtaient de l'argent à leur seigneur, et lorsque le seigneur le nomme ne rendait pas, ils le traînaient en justice. C'est tout récent, ça, il y a 3 ans, 4 ans que ça a été publié, cette étude. D'ailleurs, le jour où on saura bien un petit peu qu'était la société russe avant, la veille de la révolution d'octobre, on aura de drôles de surprises ce jour-là. Bon, le 16e canon stipule que l'évêque doit, dans la mesure du possible, fournir les aliments et les vêtements aux pauvres, et aux infirmes que leur santé empêche de travailler de leurs mains. C'est tout le début du grand mouvement de charité. Canon qui définit un devoir explicite de charité à l'évêque envers son prochain. Le concile, ici, donc, témoigne de l'ascendant qu'ont pris les évêques dans la société de l'époque. Il pose ici les principes d'un New Deal social, d'une nouvelle donne sociale qui ébranle, qui lézarde complètement l'ancienne société païenne, romaine, qui récupère ce qu'on peut récupérer, qui le transcende par le christianisme, hein, et va aboutir au beau Moyen-Âge classique que nous connaissons, qui sera la période où l'Église a porté à la perfection, est arrivée à la perfection quasiment, si tant est que la perfection est possible sur cette terre, de l'œuvre qui est commencée ici, après des aléas. En conclusion, je disais en 511, Clovis mourait. Son règne s'achève sur le concile d'Orléans. Je cite Godefroy Kurt. C'est une œuvre législative qui a ouvert les annales de la France et c'est une œuvre législative qui ferme le règne de Clovis. Les canons de 511 sont la charte d'une grande nation chrétienne. Ça, ici, Godefroy Kurt redevient pénétrant. Une nation catholique était née, indestructiblement unifiée dans la même foi et sous le même roi, par un ciment tellement fort que jamais les siècles n'ont réussi à l'entamer. Il a fallu le triomphe d'une secte, la secte des Jacobins, n'est-ce pas, issue de la maçonnerie, pour détruire complètement tout cela. Enfin, et c'est l'essentiel, avec Clovis, l'Église remportait une victoire décisive sur l'arianisme. Hein, la pure doctrine du Verbe Dieu incarné était sauvé. Et donc, entre le 6e et le 8e siècle, le christianisme va réaliser la synthèse, la fusion entre les apports barbares, la romanité et les exigences de l'Évangile. Et là, c'est parti. Voilà. C'est terminé. Ah oui, parce que la loi salique, c'est la loi de passation de la terre, à qui revient la terre, aux enfants mâles, chez les Mérovingiens. Donc, effectivement, elle est là. Alors, la loi salique a un côté intéressant, parce qu'on l'a ressortie bêtement, encore une fois, lors de l'extinction de des Capétiens directs, au moment où Philippe le Bel, les trois enfants, meurent, et il reste Isabelle de France, mais qui est mariée à Édouard II, roi d'Angleterre. Le risque... Il faut savoir qu'en droit féodal, l'Angleterre, le roi d'Angleterre est vassal du roi de France. Il prête hommage pour les terres d'Aquitaine qu'il a en France. Si Isabelle hérite du royaume, son mari et son fils deviennent roi de France. Ça veut dire que le vassal hérite du royaume de France et que la France passe sous l'autorité du roi d'Angleterre. À partir de ce moment-là, ils ont quand même compris quelque chose, les barons qui étaient réunis. Ils se sont dit, si ça se passe comme ça à plusieurs dynasties, alors un coup on va être anglais, après on sera espagnol, puis après on va être portugais, puis après ça sera l'Italie, puis pourquoi pas la Turquie, enfin bon, il y a plus de raisons de s'arrêter, l'Autriche-Hongrie, la Pologne, la Turquie, excusez-moi, c'est vraiment poussé trop, très loin, mais enfin, je caricature à dessein. Hein. Bon, que font les barons? Eh bien les barons, ils ressortent la loi salique. Mais c'est un prétexte parce qu'il leur faut une base juridique. Alors certains nous ont dit, regardez, misogyne, etc. Ben non, pas du tout. Ils ont eu peur d'avoir un roi anglais. Et puis à l'époque, pas question d'avoir un roi anglais. Pas question de passer sous l'autorité du roi d'Angleterre. Quand on... attendez, c'est un cousin par une branche latérale, Philippe VI le Valois. Et c'est le début donc des Valois. Oui. Longtemps après pour justifier. Oui. Aucun droit au niveau des coutumes. Oui, exactement. Donc c'est après pour justifier effectivement cette pratique. Oui, oui. Alors ça donnait. Oui, c'est ça. Ça donnait une base juridique après, mais qui n'est pas interprétée dans le sens où on élimine les femmes, puisque les reines étaient couronnées, mais elles étaient étrangères. Ça a créé des liens avec les autres monarchies, mais ça a assuré la stabilité de la royauté française. Hein, elle a été ressortie uniquement à ce moment-là. Après, on n'en parlera plus. Hein. On n'en parlera plus. Parce qu'avec les Capétiens, c'est plus tellement la loi salique qui domine, c'est le droit d'aînesse, sachant qu'avec les Capétiens, le droit d'aînesse arrive. On passe évidemment du système de la patrimonialité où on partage les terres aux fils, aux garçons, alors qu'avec ce qui entraînera d'ailleurs toutes ces divisions entre Mérovingiens et Carolingiens, alors qu'avec les Capétiens, famille du Nord, on voit apparaître cette notion de droit d'aînesse, qui est d'ailleurs génial, parce que la France sera construite comme ça, et puis elle restera cette construction. Du sacre royal, exactement. Oui, parce qu'il y a la singularité de cette monarchie, effectivement, avec son sacre, il y a le fait qu'il y a déjà un sentiment en plus national, qui s'est développé quand même aussi assez tôt, si on se souvient de la fameuse bataille de Metz, hein, en 1124, avec Suger, Louis, où il lève le drapeau, et on a failli être écrasé dans l'étau impérial et puis anglais, où il lève le drapeau, Montjoie Saint-Denis, tout le banc, l'arrière-banc arrive, et on défend la France. Il y a ce sentiment, donc il y a un sentiment national, il y a ces problèmes de droit, ces coutumes, cette tradition et cette notion de sacre. Donc effectivement, un certain nombre d'éléments ici qui justifient le fait qu'on ait éliminé les princesses capétiennes. Mais pas par... je n'ai même pas la peine de le repréciser. Par misogynie, comme ça. Ça fait partie. Je ne connais pas bien le marquis de la Franquerie. Bon, avec effectivement tout le rattachement à cette notion de souverain qui serait d'origine quasiment d'ascendance juive, avec tout ça. Bon, là, l'onction, comme sacre royal, oui, oui, voilà, spécial. Mais elle a pris une dimension particulière. Mais enfin, c'est attesté parce que les historiens eux-mêmes, tous le disent, et même ceux qui travaillent sur la notion de sacre, disent très bien que c'est perçu et qu'on le voit comme l'onction des rois d'Israël et que ça rattache la royauté française d'abord comme un sacre et ensuite cette onction des souverains d'Israël comme élus de Dieu. Alors, non, c'est pas un simple baptême. C'est le baptême en tant que tel et la confirmation, mais c'est perçu autrement. C'est pour ça que la chronique lui donne effectivement une importance capitale. Si la chronique lui donne une importance capitale, c'est qu'il a été perçu comme tel à l'époque et qu'il a été vu comme quelque chose, un événement hors du commun. Hors du commun. Or, ensuite, évidemment, les clercs eux-mêmes, avec leur connaissance des Écritures et tout, ils spéculaient sur l'affaire, est évidemment logique, hein, et s'impose de soi. Oui, il apparaît comme moins barbare que les autres. C'est-à-dire barbare dans le sens... Alors dans le sens où nous l'entendons actuellement, pas dans le sens où on l'entend à l'époque l'étranger, Barbaros, dans le sens donc moins cruel, moins brutal, il semble que derrière il y ait le sens politique de Clovis, cette adhésion, le fait qu'il ait été dès le début pressenti par Saint-Rémy, les évêques, qu'il a senti en esprit politique ce qu'il pouvait retirer de cette collusion avec les évêques, à ne pas détruire des cités, à pouvoir, les fédérer, c'est lié à ça. Alors on a prêté à Clovis des intentions politiques extraordinaires, il y en a qui ont dit non, en fait c'était qu'un pauvre abruti et barbare. C'est beaucoup trop tranché pour correspondre à la réalité, à la vérité. Il y a des choses qui nous échappent réellement sur la pensée de Clovis politique, il n'a pas écrit de... Hein, bon. Donc on ne peut pas spéculer, on peut en parler pendant des heures, mais je crois ici qu'il y a l'importance de l'œuvre des évêques et un certain sens, vraisemblablement, politique, chez Clovis. Les Francs ne sont pas des barbares au sens où on l'entend comme les Vandales qui eux passaient massacrer tout, comme les Huns et autres. Et encore, même quand on prend les Huns, quand Attila arrive devant Troyes, Saint-Loup de Troyes, et qu'il lui dit, mais l'autre il le voit le défier avec sa croix, et puis deux ou trois personnes, il dit, mais tu sais qui je suis? Ben évidemment, bien sûr, mais j'ai mon Dieu avec moi, etc. Et puis je crains rien. Il est sidéré, il lui fait ouvrir la ville, il passe, il touche rien. Donc, il y a une question de mœurs, et il y a aussi un problème, c'est qu'à cette époque, il y a quand même le sens de l'honneur, c'est des guerriers, ils ont un certain sens. Donc, il y a cette brutalité des mœurs, ces mœurs qui ne sont pas nos mœurs, hein, mais il n'y a pas forcément vraiment d'arrière-pensée, en quelque sorte. Il n'y a pas une forme de cruauté calculée. Ce sont des peuples qui potentiellement, on a la possibilité de les civiliser. La meilleure preuve, c'est qu'ils ont quand même été fascinés par Rome. Ils ont vu ces ruines de Rome. Ils ont essayé de concilier. Alors, celui qui arrivait mieux, qui a fait mieux la synthèse, c'est Clovis, mais parce que Clovis, il y avait les évêques qui étaient aidés, il y a le catholicisme, donc tout ce que j'ai dit précédemment. Mais les autres, ils étaient à rien. Bon, donc, des royaumes qui sont détruits, des guerres, des rivalités, pas soutenues, plus ou moins soutenues par les empereurs. Là aussi, ça comptait, puisque même Clovis avait reçu la pourpre impériale. C'est-à-dire qu'il était reconnu comme étant, et ça c'est très important, parce que en Occident, celui qui assume le poids de la romanité, mais modernisé par le christianisme, en quelque sorte, enfin, renouvelé par le christianisme. Alors ces peuples, c'est vrai, il y a les Burgondes. Les Burgondes sont assez doux. Chez les Burgondes, il y a la loi Gombette, n'est-ce pas, qui reconnaît les droits des Germains, des Burgondes, comme les droits des populations gallo-romaines. C'est quand même un trait des Germains qu'on a fait longtemps passer pour des barbares et des brutes épaisses. Ce sont des guerriers, donc il y a les mœurs de guerriers. Mais aussi on regarde au niveau social, il y a quand même une chose qui est extraordinaire, c'est d'un point de vue social, il y a une tolérance chez les Germains. Il n'y a pas d'esclaves véritablement chez les Germains, il y a de la clientèle. Et clientèle, il y a une famille. À Rome, c'est une société plus brutale, qui pourtant, par d'autres côtés, est 100 fois plus avancée que les Germains. Mais les Germains sont des nomades, ils vivent en tribu. Les Romains, c'est une société, un empire organisé, mais qui a des dieux cruels, qui a des jeux cruels, qui a des principes humains qui sont aux antipodes du christianisme, et qui ne sont pas ceux des barbares germains, qui ne fonctionnent pas de la même façon. On pourrait même dire que la barbarie des Germains ou d'un Attila n'a rien à voir avec la cruauté des Romains en train de se paître des jeux du cirque et de brûler. Parce que c'est vraiment, là c'est le barbare qui vient, qui taille, qui tue, et puis c'est tout, on n'en parle plus. Là, c'est vraiment la cruauté, mais avec intentionnel. Donc, très difficile de répondre à cette question parce que beaucoup de documents nous manquent. On n'est pas dans une civilisation de l'écrit, on est une civilisation de l'oral. Mais je crois qu'il est possible de répondre de cette façon. Vous pouvez peut-être rajouter quelque chose, monsieur l'abbé, aussi. Voilà. Hein? Alors, il y a Clovis, c'est assez extraordinaire parce qu'après une bataille, il va voir Saint-Martin. Et puis, il vient sur son cheval et puis il donne une aumône. Puis, il veut repartir, puis le cheval ne bouge pas. Alors, il. Prêtre dit, il faut peut-être en rajouter. Non, il en rajoute. Il dit, le cheval part pas. Il en rajoute. Et à fait, il dit, Saint-Martin, il aide bien, il donne de bons coups de main, mais alors il est exigeant, hein, qu'est-ce qu'il réclame, hein? Alors la phrase, c'est pas tout à fait ça, mais en gros, c'est ça. Alors c'est l'un des premiers bons mots de l'histoire, effectivement. Où, Saint-Martin est agréable, mais il n'est pas commode en affaires. Alors tac, tac, bon, jusqu'à quand? Quand est-ce qu'il part le cheval? Non, non, il a eu, sur le plan du christianisme, il a eu donc les instructions de Saint Vaaste, oralement. Bon, je pense pas, c'était pas quelqu'un, de toute façon, n'est pas une civilisation de l'écrit, donc il n'avait pas appris à lire, à écrire, il y a que l'ensemble des clercs qui avaient l'écriture, qui savaient lire, écrire. Donc, il a eu juste une instruction générale. Quant à la conversion de Clovis est une chose réelle. L'adhésion de Clovis à l'Église est une chose réelle aussi. Son soutien à l'Église aussi. La profondeur de sa conversion, je me refuse à discuter sur des choses de genre. C'est des discussions sans fin, comme celle de savoir si les Polonais sont vraiment catholiques, comme celle de savoir si les Cristeros étaient vraiment catholiques, comme celle de savoir si les Vendéens étaient vraiment catholiques. Et chaque fois, vous avez toujours quelqu'un pour poser la question, pour douter de cette conversion, toujours pour ruiner la conversion ou pour trouver des choses suspectes derrière. Je me refuse à ce débat débile, stupide, qui ne mène à rien. Et nous sommes tout à fait d'accord, Clovis est converti. Ce qu'il a compris du christianisme, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il y avait une foi, et certainement les réactions qu'il a eues et tout sont des réactions de quelqu'un au premier degré. C'est pas des réactions, c'est peut-être la foi du charbonnier, qui était encore teintée de certaines superstitions. D'ailleurs, dans le Concile, on interdit même certaines superstitions qui fait que des clercs ou d'autres, pour savoir ce qu'il fallait faire, ouvraient le missel ou le bréviaire et puis disaient, bon, voyons voir, je vais voir la réponse là-dedans. Et c'était des méthodes païennes, ça, genre d'augure. Bon, je vais voir l'augure, plutôt que d'aller ventrer un chat ou une poule, hein, on prend... Bon, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Hop, j'ai le résultat. Et le Concile l'a interdit. Hein. Et ça, c'était une survivance païenne. Alors, Clovis a participé à la destruction du paganisme. Il a développé le christianisme. Donc, sa conversion est certaine, sa foi est certaine, son instruction a certainement été poursuivie par Clotilde, par les évêques, il a pris conseil avec eux, et certainement qu'à la fin de son règne, c'était un roi encore beaucoup plus accompli en 511 que le jeune premier converti en 496. Voilà. Mais que dire de plus? Rien. Tout problème des néophytes. Voilà. Voilà. Exactement, parce que sa foi, il y croyait véritablement. Mais non, puis c'était même parce que l'Église lui demandait. Les évêques l'appelaient pour, ici, venir défendre les populations. Donc, c'était pas un homme du livre. On voulait un homme d'action. On avait un prince au temporel qui pouvait faire aider pour l'Église, qui respectait les évêques, qui convoquait un concile, qui participait, qui aidait. Mais exactement, c'est l'essentiel. On lui avait pas demandé plus. Qu'après nous ayons quelqu'un de lettré, comme de plus lettré, comme des gens comme Charlemagne, mais ça c'est autre chose, c'est différent. Bah, c'est la prochaine conférence. Ah oui, bon alors je m'arrête là. Hein.